Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons lire maintenant quelques textes qui seront liés avec la prédication du jour. Le premier se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Un deuxième texte se trouve maintenant dans le prophète Ésaïe. Nous venons de lire que Dieu nous a parlé par des prophètes, et bien nous allons lire maintenant un texte dans les prophètes. Chapitre 2 d'Ésaïe, versets 9 à 12. Donc Ésaïe 2, verset 9. L'être humain est courbé, l'homme est abaissé, ne leur pardonne pas. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière, loin de la terreur de l'Éternel, de l'éclat de sa majesté. Les regards arrogants de l'être humain seront abaissés et l'orgueil des hommes sera courbé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car l'Éternel des armées a fixé un jour contre tout ce qui est hautain et orgueilleux, contre ce qui s'élève et qui sera abaissé. Nous venons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et ce sont des paroles de Jésus qui dit ceci, Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec ces générations et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. Et un troisième texte, ça sera peut-être un défi de le trouver, celui-là, c'est dans Sophonie. Alors, si vous les trouvez facilement, vous pouvez revenir depuis Matthieu, puis revenir dans l'Ancien Testament. Puis là, vous avez Malachie, Zacharie, Agée, et puis ensuite, vous avez Sophonie. Sophonie 2, verset 3, qui dit ceci. « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. » Et nous savons que ce peut-être de Sophonie est devenu une assurance en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture pour la prédication. Voilà, toute la Bible. Alors, je cite avec le mot « toute ». Toute la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Et nous comptons donc sur lui pour la comprendre, aujourd'hui encore, évidemment. Le choix d'une nouvelle série sur un livre biblique est toujours un moment délicat. Qu'est-ce qu'on va étudier ensemble? On a fini 1, 2, 3 Jean ensemble. Un équilibre Ancien et Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre? Qu'avons-nous besoin? Qu'est-ce qui est utile? Alors depuis un certain temps, j'observe que les livres que l'on appelle petits prophètes semblent souvent oubliés, méconnu ou parfois même mystérieux pour beaucoup de chrétiens, et je ne fais pas exception à ce constat. Alors nous allons donc faire un tour d'horizon des 12 prophètes qui nous ont laissé des écrits à côté des 4 que l'on appelle grands prophètes. Alors pourquoi grands? C'est parce que leurs écrits sont plus longs, tout simplement. Nous ne parlerons donc pas directement de Ésaïe, Jérémie, Daniel ou Ézéchiel, ou pourrait-on dire encore d'Élie et Élisée, qui sont dans 1 et 2 rois, et qui, pourrait-on dire, sont les précurseurs de cette lignée prophétique. Non, nous parlerons des 12. Et afin de ne pas utiliser le terme petit prophète, qui pourrait être vu péjorativement, Je vais simplement utiliser l'expression « les 12 prophètes ». Comme d'ailleurs Jésus et ses contemporains les appelaient. Hein, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 12 prophètes, eh bien, on les a mis dans un seul rouleau. Sinon, ça serait des trop petits rouleaux facilement perdus. Ils ont été mis dans un seul rouleau à l'époque. Alors, vous pouvez prendre vos Bibles et chercher, en fait, vous avez les prophètes, hein, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, hein, ça on les trouve assez facilement. Et si vous allez à la fin de Daniel, vous avez Osée. Ok? Donc là, vous pouvez mettre un doigt, là, vers Osée. Puis ensuite, vous pouvez aller chercher Matthieu. Puis vous allez juste avant Matthieu. Et vous avez donc là la portion de Bible, hein, c'est une portion comme celle-ci, qui concerne ces 12. Qu'elles ne sont pas très grandes. Hein. Mais il y a 12 prophètes dans cette portion de Bible. Ce sont les 12 prophètes qu'on va découvrir ensemble. Ce sont 12 témoins de la période des rois d'Israël et de Juda jusqu'au retour de l'exil de Babylone pour les 3 derniers. Alors, l'ordre chronologique de ces 12 n'est pas évident à établir, en fait. Alors, je vous proposerai de les aborder dans l'ordre chronologique auquel je suis parvenu actuellement dans l'état de mes recherches. Et vous trouverez, si jamais, dans le petit papier au dos, l'ordre dans lequel nous allons voir ces prophètes. Je vais vous le donner maintenant, comme ça vous l'entendez aussi. Donc, voici simplement l'ordre que je ne vais pas actuellement expliquer ou développer. Donc, nous verrons Abdias, ensuite Joël, Jonas, Amos, Osée, Michée, Nahum, Sophonie, Habakkouk, Agé, Zacharie et Malachie. Voilà, peut-être vous avez déjà entendu parler de ces noms, peut-être pas. Ce sera le moment de les découvrir. Et si ces prophètes sont souvent sombres, c'est vrai, eh bien quasiment chacun termine par une note d'espérance. Et nous nous réjouissons de voir comment et pourquoi nous arrivons à ces différents éléments. Alors je ne vais pas maintenant continuer à vous présenter chacun de ces 12 petits prophètes, parce qu'il est prévu d'avoir une prédication par prophète. Comme ça, on prendra le temps pour chacun. Mais aujourd'hui, on va simplement répondre à 2 questions qui nous prépareront à cette découverte. La première... c'est pourquoi étudier les 12 prophètes? Pour ça, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir. Pourquoi étudier ces 12 prophètes? Et deuxième question, qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Ça sera la partie la plus développée. Et nous verrons, comme je vous le dirai, que le jour de l'Éternel est un thème que l'on trouve partout dans ces prophètes. Voilà pourquoi il me semble important d'en parler avec vous aujourd'hui dans cette introduction. Mais commençons par le premier. Pourquoi étudier les 12 prophètes? J'aimerais vous donner quelques raisons qui nous motivent à lire, à chercher à comprendre ces prophètes. La première raison, c'est que toute la Bible est inspirée et utile. Toute la Bible est inspirée et utile. Vous connaissez ce texte sûrement, sinon je vous invite à le prendre par cœur ou à le mettre bien en vue chez vous, de 2 Timothée 3,16, qui dit que toute écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Cela signifie qu'il n'y a pas une partie de la Bible que nous devrions négliger ou mettre de côté si nous voulons mieux connaître celui qui se révèle dans les Écritures. Parce qu'il faut comprendre que la Bible, ce n'est pas un code de conduite, une explication de ce que nous devrions vivre ou de ce que nous vivons. La Bible, c'est premièrement et fondamentalement une révélation de Dieu, pour connaître Dieu et ainsi nous connaître. Et il se fait connaître à nous par ce qu'il a fait mettre par écrit. Voilà une première raison pour étudier les 12 prophètes. Toute la Bible est inspirée et utile. Toute la Bible est inspirée et utile. Ça va, on comprend bien cette raison. J'espère que ça nous motive déjà un petit peu. On va dans la deuxième raison cette fois-ci. Jésus et ses disciples enseignaient à partir de l'Ancien Testament. Et nous avons un exemple explicite et très fort de cet enseignement à partir de tout l'Ancien Testament, lorsque Jésus rencontre deux disciples en direction d'Emmaüs. Jésus venait de mourir et de ressusciter. Ces deux disciples ne savaient encore pas que Jésus était ressuscité. Il les rencontre en chemin. Et voici ce qu'il leur dit. « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors le Nouveau Testament est un don fabuleux que le Saint-Esprit nous a fait. On doit être conscient de ça. Le Nouveau Testament est un don fabuleux que nous avons reçu, car il nous permet de constater l'œuvre de salut que Jésus et Dieu lui-même est venu accomplir, ainsi que toutes ses applications de ce qui avait été annoncé. Et les premiers chrétiens n'avaient pas encore tout le Nouveau Testament. Et pourtant, à l'aide de l'Ancien Testament, ils annonçaient l'Évangile. Vous vous souvenez peut-être des Juifs de Bérée, qui recevaient la parole de Paul et Silas, et avec empressement examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que l'on disait était exact. C'est dans Acte 17. Les Écritures, dans ce contexte-là, c'est l'Ancien Testament dans lequel nous trouvons les 12 prophètes. Donc voilà donc notre deuxième motivation à étudier les 12 prophètes. Ils font partie des Écritures à partir desquelles Jésus et ses disciples enseignaient. Ils font partie de l'Écriture à partir desquelles Jésus et ses disciples enseignent. Troisième raison. Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par les prophètes. Et lorsque Dieu parle, ça vaut toujours la peine d'écouter. Eh oui, ça vaut toujours la peine. Surtout lorsqu'il a voulu que cela soit mis par écrit. C'est Dieu qui a voulu que ça soit mis par écrit pour que nous puissions aussi encore le lire aujourd'hui. Et l'Épître aux Hébreux nous le dit clairement, on l'a lu tout à l'heure. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu a parlé par les prophètes, c'est très clair. Oui, le verset 2 qu'on a lu aussi dit « Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il est établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. » Alors oui, Jésus-Christ est la référence. C'est important. Jésus-Christ est la référence, notre fondement. Il est notre moyen de compréhension des prophètes. Il n'y a aucun prophète au-dessus de lui. C'est lui qui est au-dessus. Mais cela ne signifie pas que les prophètes sont devenus inutiles. Et que la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit au travers de ses serviteurs, n'est pas digne d'intérêt. Donc notre troisième raison d'étudier ces 12 prophètes est donc de mieux connaître Dieu en étudiant ce qu'il a dit. Mieux connaître Dieu en étudiant ce qu'il a dit, parce que quand Dieu parle, cela vaut la peine d'écouter et chercher à comprendre. Quand Dieu parle, ça vaut la peine d'écouter et chercher à comprendre. On arrive à une quatrième raison, que j'intitule « Comprendre ce qui était annoncé nous permet de mieux comprendre ce qui est accompli ». Si les prophètes parlaient au peuple de son époque, il a aussi annoncé des choses à venir. Et nous savons que le centre de l'histoire de l'humanité n'est pas devant nous, mais c'est la venue de Dieu sur terre, qui bien sûr sera prolongée par son retour, ça c'est évident. Mais le centre de l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est l'accomplissement de ce que Christ a fait en tant qu'homme, et cela se manifestera dans sa totalité, dans la gloire, lors de sa seconde venue. C'est en fait tout l'évangile, c'est la bonne nouvelle de l'œuvre de Dieu. Et Jésus a clairement dit dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et ça, c'est notre quatrième motivation que je vous propose pour nous arrêter à étudier les 12 prophètes. Comprendre ce qui était annoncé nous permet de mieux comprendre ce qui est accompli. Comprendre ce qui était annoncé nous permet de mieux comprendre ce qui est accompli. Mais l'inverse est aussi vrai. Comprendre ce qui est accompli nous permet aussi de comprendre ce qui était annoncé. Et parfois, c'est ce chemin-là qu'on va emprunter. Parce que ce qu'ont dit certains prophètes, parfois on se pose des questions, surtout qu'on n'est pas exactement dans le même contexte. Donc ce qui est accompli, comprendre ce qui est accompli nous permettra aussi de comprendre ce qui était annoncé. Je vous ai donné 4 raisons, 4 motivations, et je pourrais continuer en vous parlant de la découverte de Christ dans chaque livre biblique, de la révélation de certaines parties de l'histoire dans chacun de ces livres, des sujets éthiques tout à fait actuels que ces 12 prophètes abordent. Mais je vais m'arrêter ici pour les motivations à vivre et à comprendre et à lire ces 12 prophètes, qui devraient d'ailleurs être autant de motivations pour chacun d'entre nous pour lire notre Bible entière chaque jour. Or, comprenez-moi bien, c'est pas lire toute la Bible chaque jour, hein, mais c'est lire la Bible chaque jour et la lire dans son ensemble. Et nous découvrirons dans ces 12 des aspects de l'évangile qu'est la bonne nouvelle face à la déchéance du péché et le juste jugement que ce péché appelle. Et justement, la deuxième question que nous allons répondre ce matin est en lien avec ce jugement. C'est la deuxième question du jour. Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Vous avez peut-être vu ce texte, cette expression dans la Bible, hein, le jour de l'Éternel. C'est quoi? C'est quoi ce jour de l'Éternel? Et ce sujet est omniprésent dans les écrits des 12 prophètes. Et voilà pourquoi c'est important de le comprendre, ou en tout cas d'entrer dans cette compréhension, parce que c'est un sujet assez vaste. L'expression « le jour de l'Éternel » se trouve par exemple dans Abdias 1.15, hein, qui dit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, ta rétribution retombera sur ta tête. » Ou encore, nous trouvons cette expression dans Isaïe, dans 13.10, Ézéchiel 30.1, Joël 3.5, Amos 5.18, Sophonie 1.14, enfin, etc., etc. En fait, nous trouvons cette expression, ça souci intéressant à savoir, que dans les prophètes. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est un thème récurrent et à l'arrière-plan, même s'il ne le mentionne pas forcément directement. C'est vrai, il ne le mentionne pas tous. Mais la première mention dans les prophètes se trouve dans Ésaïe 2.12, que nous avons lu pour la prédication, qui indique que ce jour existe. Il existe ce jour. Mais ce n'est pas la première mention dans l'histoire, pour 2 raisons. C'est que Ésaïe n'est pas chronologiquement le premier. Et deuxièmement, bien des fois cette expression n'est pas complète. On parle par exemple uniquement du jour. On ne dit pas jour de l'Éternel, mais le jour. Qu'on trouve déjà avant les prophètes. Donc ça, il s'agit de quoi de ce jour-là? Qu'est-ce que le jour de l'Éternel? Est-ce que c'est toujours d'actualité d'ailleurs dans le Nouveau Testament? C'est ce qu'on va tenter de répondre. Alors je vais vous donner, pour commencer, une définition. Et ensuite, eh bien, on va l'expliquer. Et vous verrez que cette définition, elle est importante. Parce qu'il y a en tout cas 3 termes qu'on va retrouver tout au long maintenant de la prédication jusqu'à la conclusion. Donc le jour de l'Éternel est une expression utilisée dans la Bible pour décrire comment Dieu est à l'œuvre dans l'histoire pour juger ceux qui font le mal, pour libérer son peuple de l'oppression et pour appliquer ses lois à toute la création. Voilà les 3 mots importants à comprendre pour comprendre le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel pour juger ceux qui font le mal, pour libérer son peuple de l'oppression et pour appliquer sa loi à toute la création. Voilà les 3 éléments clés. Donc si vous vous souvenez de ces 3 mots pour le jour de l'Éternel, ben c'est déjà bien. Après, avec la compréhension qu'il y a derrière, on va maintenant un petit peu y travailler. Et un jour de l'Éternel final existe, mais ce jour est déjà arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est drôle, hein? C'est comme des annonces, des représentations, des exemples de ce qui va arriver. On pourrait dire qu'on a eu plusieurs prototypes dans le passé. Et les prophètes ont annoncé le jour de l'Éternel final, bien souvent mélangé avec des prototypes et des avant-goûts. Et c'est ce qui rend parfois difficile la lecture des prophètes. C'est qu'ils ont souvent une vue à 2 niveaux. un niveau plus long, lointain et un niveau plus proche. Puis c'est, on a l'impression, c'est pas comment démêler toujours cela. Mais c'est important de le savoir qu'il y a ces éléments. Mais avant de continuer de parler du jour de l'Éternel, j'aimerais parler de l'origine. Pourquoi il existe ce jour? Pour quelle raison? Eh bien, au commencement, lorsque Dieu a créé le monde dans lequel il a placé Adam et Ève pour le glorifier, il n'y avait pas besoin de ce jour de l'Éternel. Il n'y avait pas besoin. Parce que personne ne faisait le mal, son peuple n'était pas opprimé, et la loi de Dieu était appliquée à toute la création. Il n'y avait pas besoin de jour de l'Éternel. Mais le mal entra dans le monde par la désobéissance. Et le mal doit toujours être puni. Ça, c'est Dieu qui le dit. Le mal doit, il est saint. Le mal doit toujours être puni. C'est ce qu'on appelle la rétribution. Parce que Dieu est saint et il est parfaitement juste. Si le mal n'est pas puni, il n'y a pas de sainteté. Donc le mal doit toujours être puni, c'est ce qu'on appelle la rétribution, car Dieu est saint, il est parfaitement juste, donc le besoin de jugement est apparu avec l'apparition du mal. Quand le mal est apparu, il y a eu un besoin d'un jour du jugement. Le peuple de Dieu est opprimé, et le premier qui en a fait les frais, c'est Abel, qui a été assassiné par son frère. Cela nous montre qu'il y a un besoin de libérer le peuple. J'ai dit les trois mots, hein. Jugement, juger, libérer. Et puis le troisième. Dès la chute, les bonnes lois de Dieu qui permettent une parfaite harmonie entre les humains, entre eux et toute la création n'ont pas été respectées pour le profit personnel, le bien-être et toutes les idoles possibles qui sont venues appliquer leurs lois destructrices. Voilà donc le besoin d'appliquer la loi de vie de Dieu sur toute la création. Voilà l'origine. Le jour de l'Éternel, c'est donc le jugement du mal, la libération de son peuple et l'application de sa loi sur toute la création. Et ce n'est pas un jugement surprenant, qui n'a pas été annoncé. Tout à coup, oh, surprise, ça arrive. Non. Dès le jardin d'Éden, Dieu a indiqué les conséquences à Adam et Ève. Et plus particulièrement aussi à Moïse, lorsqu'il a donné la loi, il a parlé de toutes les malédictions. On a un peu de la peine à lire ces chapitres qui parlent de toutes ces malédictions, hein. Mais il les a données pour que le peuple soit averti. Et les 12 prophètes sont très souvent en train de reprendre, ben voilà les malédictions, si on se détourne de l'Éternel. Mais revenons à l'histoire, pour voir trois prototypes du jour de l'Éternel que Dieu a fait dans l'histoire humaine. Le premier prototype, c'est le déluge. Le premier jour de l'Éternel marquant que nous trouvons dans l'histoire de l'humanité, c'est le déluge. Depuis la chute, les humains ont choisi de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, mais c'est qui doit définir ce qui est bien et ce qui est mal? C'est Dieu. Mais l'homme a choisi de définir lui-même. Et en faisant cela, il s'est enfoncé dans ce que Dieu considère comme mal. Et le mal était si profond, le peuple de Dieu si opprimé, qu'il ne restait plus qu'un homme qui a obtenu la faveur de Dieu. C'était Noé. Et le déluge détruisit tout ce qui vit sur la terre entière. Le déluge détruisit tout ce qui vit sur la terre entière. C'est le prototype du jugement universel. C'est le prototype du jugement universel. Aucun être vivant n'a pu échapper à ce jugement, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Aucun être vivant sur cette terre n'a pu échapper à ce jugement, sauf ceux qui étaient dans l'arche, qui d'ailleurs est un prototype de la rédemption. Donc le déluge détruisit tout ce qui vit sur la terre entière, donc c'est un prototype du jugement universel, sauf ceux donc qui étaient dans l'arche. Mais malheureusement, si ceux qui avaient fait le mal avaient justement été livré, donc ça c'est pas malheureux, ça c'est juste, que le peuple avait été libéré, le mal était dans le cœur même de ceux que Dieu avait jugés, avait gardé du jugement universel. Alors il promet donc que tant que la terre subsistera, de ne plus faire de jugement universel. le prototype du jugement universel a été fait. Et l'arc-en-ciel nous le rappellera jusqu'au jour final. Chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, on peut dire, il y a deux choses quand on voit l'arc-en-ciel. Généralement, on se rappelle de l'alliance de Dieu, qui ne va pas le refaire, de sa grâce, et c'est très bien. Et il est important de se rendre compte aussi que ça doit nous rappeler qu'il y a un jugement universel. Et l'arc-en-ciel doit nous le souvenir. Et celui qui essaye de nous faire croire que le déluge universel n'a pas eu lieu, veut simplement nous faire croire que Dieu ne juge pas universellement. C'est simplement pas plus difficile que ça. Je vais vous parler maintenant d'un deuxième prototype de ce jugement, de ce jour de l'Éternel. Il se trouve dans Genèse 11. C'est la confusion des langues à Babel. En fait, dans Genèse 11, nous trouvons cette histoire de Babel, juste en passant, mais c'est un en passant important. Le mot Babel, traduit par Babel en français, c'est le même que Babylone. Donc en hébreu, vous avez le même terme, puis des fois il traduit Babel, là, puis il traduit Babylone. Donc Babylone-Babel, c'est le même terme hébreu. C'est le lieu où l'homme marque son indépendance à définir ce qui est bien et ce qui est mal, et qui se détourne de Dieu, et qui veut devenir lui-même Dieu. Dieu avait dit de remplir la terre à Noé et à sa descendance. Il avait donné, vas-y, remplissez la terre. Puis tous les hommes ne parlaient qu'une seule langue à cette époque-là. Et ils se sont dit entre nous, vous rappelez, remplissez la terre, c'est ce que Dieu a dit. Et ils se sont dit entre eux, c'est dans Genèse 11, vous pouvez vérifier verset 4 si vous voulez. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas disséminés sur la surface de la terre. En fait, le bien de se disséminer est appelé mal. Vous voyez, il y a un peu les problématiques ici, Et par la confusion des langues à Babel ou Babylone, si vous utilisez le terme, Dieu fait appliquer sa loi à l'homme. Il a disséminé sur la surface de la terre. Dieu a confondu les langues et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a demandé s'est accompli. Dieu peut toujours faire accomplir ses lois. Et le jour de l'Éternel, c'est le jour où toutes ces lois seront accomplies. Et là, c'est un prototype ici. Donc le prototype jour de l'Éternel pour faire appliquer sa loi est fait. Et ne pas croire que Dieu a confondu les langues, c'est ne pas croire qu'il peut faire appliquer ses lois. C'est Dieu qui l'a confondu, c'est pas l'homme qui a inventé les langues. Après, il y a eu des développements, c'est évident. Mais je veux dire, c'est Dieu qui a mis ça en place. Et la différence des langues dans le monde nous le rappellera jusqu'au jour final. Donc quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous parle une langue, vous entendez des sons tout à fait étonnants, et que vous ne savez pas du tout ce qu'il dit, bien cela nous rappelle que Dieu, quand il veut faire appliquer sa loi, il le fait. C'est le jour de l'Éternel. Donc Babylone est devenu le symbole de la rébellion de l'homme contre Dieu dans la Bible. Et nous retrouvons dans toute la Bible, jusque dans l'Apocalypse, ce terme de Babylone. Et les prophètes en parlent beaucoup d'ailleurs. Voilà pourquoi je fais le lien ici. Mais Babylone prend différentes formes. Et c'est sous la forme de l'Égypte qu'elle se manifestera face au troisième prototype du jour de l'Éternel. Et le troisième prototype, c'est la sortie d'Égypte. Donc l'Égypte, c'est également un symbole du mal. Il tue les enfants du peuple choisi par Dieu et les opprime sauvagement. Et l'Éternel va libérer son peuple de l'oppression du mal représenté par l'Égypte. Et malgré les différentes plaies les plus terribles les unes que les autres, le pharaon qui représente le mal endurci va les faire poursuivre jusque dans la mer. Et ce jour-là, ça le terme est important, ce jour-là, c'est la délivrance. Mais la délivrance! La délivrance, mes amis! Vous savez que les Égyptiens, c'est fini, Après la mer, là, on n'en parle plus. Ils sont plus en train de les poursuivre, ils ont plus peur des Égyptiens, c'est fini! Délivré. Le peuple est délivré. L'Éternel délivre son peuple de l'oppresseur. Le prototype du jour de l'Éternel pour libérer son peuple est fait. Il est clair. Ce jour de délivrance d'Égypte est célébré d'ailleurs à perpétuité par le sacrifice d'un agneau. C'est la fête de Pâques. On s'en souvient de ce jour. Parfois, les juifs parlent du jour. C'est ce jour-là, le jour de l'Éternel, le jour de la délivrance de ce peuple. Et ces trois prototypes du jour de l'Éternel, hein, le déluge, la confusion des langues et la sortie d'Égypte, annoncent un jugement universel, l'application de la loi de Dieu et la libération de son peuple. Et tout le symbolisme de Babylone, de l'Égypte, tous ces éléments-là sont le terreau des 12 prophètes que l'on va étudier, qui annoncent maintenant des avant-goûts du jour de l'Éternel, afin que le peuple et le monde entier soient préparés pour le jour de l'Éternel. Et après ces trois prototypes, les prophètes annoncent, et il y a des moments où il y a des jours de l'Éternel. Parce qu'en fait, il y a des avant-goûts. Parce que malheureusement, le peuple choisi par Dieu pour manifester sa loi sur terre, et montrer ce qui est bien et ce qui est mal, ça faut comprendre. Hein. Le peuple a été choisi pour manifester au monde ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pour ça qu'il y a ces lois de pureté, enfin, etc. Eh bien, ce peuple-là se détourne de Dieu et choisit de définir lui-même ce qui est bien et ce qui est mal. L'apostasie d'Israël et la violence des peuples va pousser les 12 prophètes à parler, à leur annoncer des jugements qu'ils appelleront le jour de l'Éternel. Ils vont parler, ces 12 prophètes, pour annoncer des jugements qu'ils appelleront le jour de l'Éternel. Et ces jugements toucheront les peuples alentours qui ont maltraité le peuple de Dieu, et tombera aussi sur le peuple de Dieu lui-même qui s'est détourné de l'Éternel. La chute de divers empires qu'on peut voir dans l'histoire, eh bien, sont des exemples de jours de l'Éternel. Et même la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ est aussi un exemple du jour de l'Éternel, ou un avant-goût du jour de l'Éternel. Et si les 12 prophètes ne mentionnent pas tous explicitement ce jour de l'Éternel, ils y font allusion, où chacun montre qu'il est juste. C'est un jugement qui est juste. C'est une libération qui est juste. C'est la charge de l'application de la loi qui est juste. Et comme Osée, par exemple, Osée nous parle de procès de l'Éternel face au peuple, pour lui dire, mais c'est juste le jugement qui arrivera. Ou parle de Naoum, où il parle du jugement de la destruction de Ninive, c'est juste ce que Dieu fait, etc. Et là, j'aimerais qu'on se souvienne d'une chose très importante. Or, si vous étiez tout à coup plus là, maintenant, il faut revenir. Puis cette phrase ici, il faut l'écouter, parce qu'elle est vraiment importante. L'annonce d'un jour de l'Éternel est toujours un appel à la repentance. C'est fondamental, quand on parle du jour de l'Éternel qui est annoncé. L'annonce du jour de l'Éternel est toujours un appel à la repentance. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est vraiment important. Parce que annoncer le jour de l'Éternel, c'est pas avoir du plaisir que Dieu va juger les gens. C'est dire, réveille-toi! Repends-toi! Sophonie disait, peut-être, tu ne subiras pas la colère le jour de l'Éternel. Et nous pouvons dire avec assurance que si tu viens à Christ, tu ne subiras pas le jugement parce que Christ l'a subi. Bon, là, j'anticipe un peu, mais c'est important d'avoir cette notion. Hein. Donc, l'annonce du jour de l'Éternel est toujours un appel à la repentance. Mais si les prophètes parlent du jugement de Dieu sur les peuples et Israël qui sont passés, qui sont des avant-goûts du jour de l'Éternel, ils parlent aussi d'un jour de l'Éternel futur. Ce qui nous amène donc à réfléchir au jour de l'Éternel dans le Nouveau Testament. Donc, qui nous concerne, on est fait partie de ce temps dans le Nouveau Testament. Donc le peuple de Dieu, à la fin de l'Ancien Testament, est laissé à la merci des empires. Vous vous rappelez, l'empire babylonien, ensuite l'empire perse, l'empire grec, l'empire romain. Et c'est dans cette période de l'empire romain que naît Jésus-Christ. Il naît dans cet empire. Et les Juifs étaient convaincus que leur Messie allait effectuer un jour de l'Éternel sur Rome. Maintenant, vous comprenez l'idée. C'est ça qu'ils attendaient. Le jour de l'Éternel sur Rome, qui juge le mal, qui libère son peuple et qui fait appliquer sa loi. Mais comme nous l'avons vu, les prototypes du jour de l'Éternel et ses avant-goûts n'ont pas encore enlevé le mal profondément ancré dans la création. Et Jésus ne va pas s'attaquer à l'empire romain, mais à l'empire du mal directement. Il va y être confronté, il va être tenté, mais il n'y cédera pas, comme Adam, tous les humains et les empires, et même son peuple choisi avant lui. Jésus accomplira des miracles qui montrent qu'il veut faire reculer le royaume du mal. Ces miracles de guérison, de tempête calmée, même de résurrection, montrent qu'il annonce le rétablissement des lois de la vie du Créateur. C'est beaucoup plus grand que le jour de l'Éternel contre Rome. Mais Jésus ne vient pas seulement annoncer ce rétablissement, il vient faire face à la puissance du mal. Il va combattre le mal en lui laissant, ça c'est assez étonnant, hein, mais il va combattre le mal en lui laissant utiliser toute sa puissance et la seule arme réelle du mal, en fait, qui est la mort. Jésus se laissera mettre à mort pour vaincre la mort. Jésus se laisse mettre à mort pour vaincre la mort, et ainsi le mal n'aura plus aucune arme réelle. La mort est vaincue. Et Jésus ressuscité a vaincu le mal et la mort. Amen ! C'est merveilleux, non ? Il a vaincu le mal et la mort. Et nous pourrions dire que la mort et la résurrection de Jésus, c'est le jour de l'Éternel contre le mal, sa puissance et la mort. C'est le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jugement, hein, contre le mal, la puissance et la mort. Et tout le Nouveau Testament explique les effets de ce jour que nous fêtons à Pâques. C'est pas étonnant que Jésus ait ressuscité à Pâques, jour de la libération du peuple, prototype de jour de... Vous voyez, comprenez, tout est lié. On vous dirait peut-être, ouais, mais bon, si c'est ça le jour de l'Éternel, pourquoi en faire toute une histoire, si c'est ça? Eh bien, moi, je répondrai par deux remarques, si cette question peut nous arriver. La première, c'est que si vous vous dites cela, c'est que vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'est passé à la croix et lors de la résurrection. Jésus a vaincu la puissance du mal. C'est juste énorme. Avant, c'était des pouvoirs des peuples qui n'obéissaient pas, qui étaient jugés, etc. Là, c'est la puissance du mal. C'est ce qui est entré dans le monde et qui a fait que le jour du jugement devenait nécessaire, le jour de l'Éternel. Ça, c'est la première remarque. Mais j'en ai une deuxième. C'est que l'histoire n'est pas terminée. Et que si Jésus a vaincu la puissance du mal, il ne l'a pas encore pleinement manifestée. Et cela viendra au jour de l'Éternel, annoncé particulièrement par l'Apocalypse, mais que nous trouvons déjà dans le reste du Nouveau Testament. Et justement, les 12 prophètes que nous allons étudier parlent de cela aussi. Le jour de l'Éternel ultime. Jésus a dit qu'il reviendra. Et lors de son retour, il jugera ceux qui ont fait le mal. Il les éliminera définitivement. Il n'y a plus de mal. C'est fini. Non mais c'est extraordinaire. Ce jour de l'Éternel vient. Il libérera son peuple, écoutez bien ce mot, définitivement. Waouh, totalement. Mais c'est ça, les amis. Et il fera appliquer sa loi sur toute la création et pour toujours. C'est le jour de l'Éternel qui est devant nous. Et il est appelé, dans le Nouveau Testament, il est appelé le dernier jour, il est appelé le jour de la colère, il est appelé le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a appelé le jour de la rédemption ou encore le jour de Christ. Et Jésus lui-même l'a appelé très souvent le jour du jugement. Maintenant que vous avez ces trois éléments qui définissent le jour de l'Éternel, on comprend mieux que tous ces termes correspondent en fait. Mais il ne parle pas de tous les aspects chaque fois. Vous vous rappelez des trois éléments. Donc le jour de l'Éternel, c'est le jugement du mal, la libération de son peuple et l'application de sa loi sur toute la création. Et ce jour de l'Éternel terrible devrait faire trembler tous ceux qui ne se repentent pas de leurs péchés. Il devrait trembler, mais comme des feuilles. Et je vous assure que les démons tremblent, parce qu'ils sont conscients. Mais comme des feuilles, enfin plus encore. Je sais pas comment c'est possible. Parce qu'il a dit dans Romains 2:5, et je pense que chaque être humain qui ne s'est pas repenti devrait être conscient de ce texte. Il a dit, mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement
de Dieu.
Ce jour où tous genoux, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, fléchiront. C'est écrit dans Philippiens. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Hein. Comme je disais des fois aux jeunes, vos profs à l'école qui se moquent de Dieu, ils seront à genoux, en train de reconnaître la seigneurie et la royauté du Jésus-Christ. Alors moi, ce que je souhaite, c'est que ces profs-là, ils aient un cœur changé et qu'ils s'agenouillent pas en ayant une peur du jugement, mais qu'ils s'agenouillent en une crainte, parce que c'est vrai, on a une crainte face à la sainteté de Dieu, mais une crainte joyeuse de savoir qu'ils sont pardonnés en Jésus-Christ. Priez pour eux, les jeunes. Et ce jour ultime, où celui qui vit dans la repentance et la foi en Jésus-Christ, celui qui a vaincu la puissance du mal, sera rendu parfait, les amis. Nous serons rendus parfaits, c'est écrit, je vous le dis. Hein. Philippiens 1:6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Parfait. Parfait. Ce grand jour, c'est vrai, sera marqué par le combat final où Dieu sortira vainqueur. Mais ça sera un combat, c'est vrai. Apocalypse 16:14 le dit très clairement. Ce sont des esprits, des démons qui opèrent des signes qui s'en vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu. Il y a encore un mot que j'ai pas dit de la phrase, je la reprends. Afin de rassembler le combat du grand jour du Dieu, le Tout-Puissant. Et ce jour-là, il y aura un changement cosmique. Cosmique. Et verra la naissance de nouveaux cieux et de la nouvelle terre où la justice habitera. Comme il est dit dans 2 Pierre 3, je vous lis les passages. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Maintenant, vous commencez à saisir, hein, chaque fois, le jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. C'est l'application de la loi de Dieu, comme on l'a vu par rapport au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est le jugement final qui arrive. Et il arrive de façon certaine. Et évidemment, la phrase que nous devons nous poser, et que nous pouvons parfois poser aussi à ceux qui sont autour de nous, es-tu prêt? S'il arrivait maintenant, es-tu prêt? Arrivons à la conclusion. Si j'ai pris un temps un peu plus long pour vous parler de ce jour de l'Éternel, c'est que ces 12 prophètes sont complètement imbibés de cette notion du jour de l'Éternel. Et que si je les prenais chaque fois petit bout par petit bout, on n'avait pas une vue d'ensemble qu'on a pu le faire ce matin. Et ce jour est terrible et affolant lorsque l'on pense à ceux qui ne se détournent pas du mal, parce qu'ils périront. Et mes chers amis, si nous sommes conscients de ce jour de l'Éternel, on ne peut pas penser à ceux qui se perdent sans commencer à être pris. Parfois, on peut être émotionnellement pris. Enfin, déjà vu, ça arrive de temps en temps, on est émotionnellement pris. C'est vrai. Mais il n'est encore pas là. Il est encore temps de l'annoncer pour que les gens se repentent. Et ce jour est aussi une grande consolation pour ceux qui subissent le mal des autres. Parce que Dieu fera justice. Ce jour est un grand espoir pour ceux qui se sont détournés du mal, pour se tourner vers celui qui a vaincu la puissance du mal, car la fin de leur attente arrive bientôt. Et le jour de l'Éternel, ça sera la fin. Ça sera pas bientôt, ça sera la fin de cette attente. Donc pour être prêt, il faut se tourner vers Jésus-Christ, qui a pris le jugement de tous les péchés des pécheurs repentants. Ce jour de l'Éternel comporte un jugement, et ce jugement tombe sur lui pour celui qui se repent et qui croit en Christ. Donc je vous invite à implorer le pardon de Christ et vivre selon sa parole. Et pas qu'une fois. C'est une façon de vivre. La repentance et la foi est une façon de vivre. Et cela nous montre simplement que nous sommes transformés par Dieu. Oui, j'aimerais comme vous ne plus pécher. J'aimerais qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus de problème. J'aimerais comme vous. Nous sommes un monde déchu et nous sommes encore pécheurs. Donc nous pouvons nous repentir et saisir la grâce de Dieu avant ce jugement final. Et les 12 prophètes vivaient cela intensément. Tout ce qu'ils faisaient et disaient était orienté, était influencé par ce jour de l'Éternel? Et je termine par cette question qui peut vous faire réfléchir, qui me fait réfléchir. Est-ce que nous vivons notre vie en étant influencés par ce jour de l'Éternel? Nous allons prier. Notre Dieu, lorsque nous nous tournons vers des écrits de l'Ancien Testament comme les 12 prophètes, c'est vrai que nous sommes en même temps très motivés à aller voir qu'est-ce que tu veux nous dire, parce que c'est toi qui parles. Et lorsque nous commençons à les lire, waouh, nous avons besoin que tu nous éclaires, Seigneur. Mais nous avons aussi besoin que tu nous aides à comprendre que tu es un Dieu qui est saint, qui est juste. Et que nous sommes dans un monde, justement, où nous ne faisons plus justice. Où il n'y a plus de notion de rétribution claire. Et nous sommes tordus. Nous ne savons souvent même plus ce que signifie le vrai pardon. Seigneur, transforme-nous. Que nous puissions te comprendre. Que nous puissions t'aimer. Que nous puissions comprendre que ce jour de l'Éternel, c'est juste, c'est bon, c'est vrai, cela te représente vraiment. Cela manifeste qui tu es. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés face à ce jour de l'Éternel sans que toi tu viennes sur cette terre pour nous donner l'assurance que nous pouvons l'attendre sans crainte, c'est-à-dire sans peur. Sans être dans une détresse, mais plutôt en étant dans une sainte attente de ta manifestation glorieuse. Eh bien, Seigneur, que ce jour de l'Éternel nous pousse à te glorifier pour ton merveilleux évangile et nous pousse à le partager autour de nous. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.